ça. Après une journée chargée, je vous demande un peu d'indulgence pour accepter de vous présenter ce que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, fait dans votre champ d'intérêt. Avant toute chose, la division de la société de l'information qui coordonne tout ce que l'UNESCO fait en matière de logiciels, notamment de politique, de la préparation de la société de l'information, m'a chargé de vous traduire toute sa sympathie et sa reconnaissance pour le travail que vous faites pour le développement du logiciel, pour le développement de la société de l'information, pour laquelle l'UNESCO développe une grande activité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre, l'UNESCO, avec la collaboration de l'UIT, prépare le sommet mondial pour la société de l'information qui se tiendra à Genève et qui va se tenir également en 2005, en décembre cette année, à Genève et en 2005 à Tunis. Et tout ça pour permettre aux citoyens, à l'humanité, où qu'ils se trouvent, d'accéder aux productions intellectuelles, au savoir et au savoir-faire, ce qui est la mission principale de l'UNESCO. Bon, avant toute chose, je vais survoler rapidement la présentation de l'UNESCO que beaucoup de tout le monde est censé connaître, mais je ne fais que camper les chiffres clés et les données clés. Actuellement, l'UNESCO a plus d'une cinquantaine de bureaux, de clusters, qui se trouvent dans les différentes régions du monde. Elle emploie près de 2000 personnes et son budget avoisine les 300 millions de dollars, avec des ressources extra-budgétaires d'un montant similaire. Sa mission, bien entendu, c'est la prospective, c'est le développement, le transfert, le partage de savoir dans les domaines de la formation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des activités de perfectionnement et professionnel. Bien entendu, je travaille également pour l'élaboration de l'adoption de textes, de statuts, de recommandations. Ça a un statut également d'expert. Ça joue un rôle d'expert auprès des pays membres, notamment des pays en développement. Pour ce qui est de sa stratégie à moyen terme, les objectifs sont clairement dits, c'est l'éradication de la pauvreté, notamment de l'extrême pauvreté, puisque après tout ce que l'on sait de la richesse de l'humanité, il est difficile de croire qu'en ce troisième millénaire, on rencontre encore pas seulement des poches, pas seulement des îlots, mais des grandes aires d'extrême pauvreté. Bien entendu, l'UNESCO pense que les technologies de l'information et de la communication, bien utilisées, concurremment avec les autres composantes de la science et de la technique, pourraient réduire, contribuer à réduire cette extrême pauvreté. C'est pour ça qu'elle développe, elle prend la réduction de l'extrême pauvreté comme une priorité et les technologies de l'information comme un moyen pour essayer de réaliser ce grand défi, de relever ce grand défi. Oh, temps pour moi. Toujours dans le cadre des objectifs et de la mission de l'UNESCO, vous avez bien entendu le fait que l'UNESCO essaye d'intéresser les États membres à aux ressources que représentent, aux ressources ouvertes de manière générale, aux ressources libres de manière générale, que ce soit des ressources éducatives ou des ressources notamment dans le domaine du logiciel. Et ces derniers temps, l'UNESCO a développé un certain nombre d'initiatives qui permettent de prendre en charge les aspects qui intéressent les pays membres dans le domaine de la diffusion du développement même de certaines ressources, notamment des ressources libres et des ressources ouvertes, puisque là-dessus, l'UNESCO a une approche globale, ne pas essayer d'opposer les deux concepts, mais essayer de les utiliser ensemble pour résoudre des problèmes concrets. Bien entendu, la composante logicielle est un élément très central des technologies de l'information et de la communication. Là, je crois que j'enfonce une porte ouverte en énonçant cela, mais je ne fais que rappeler ce qui est considéré à l'UNESCO comme un point fort. Et aussi bien pour les réseaux de connaissances, pour les réseaux de télécommunications et de manière générale pour les réseaux de savoir. L'UNESCO, bien entendu, travaille avec les autres institutions du système des Nations Unies pour la promotion de la coopération, le développement et la diffusion du savoir. L'UNESCO considère que le modèle de développement, le modèle du travail collaboratif porté à sa quintessence par les mouvements libres et de l'open source pourrait servir vraiment de modèle pour un travail collaboratif, un travail beaucoup plus large au niveau mondial, au niveau international, renforcer la solidarité, renforcer le partage, renforcer le co-développement. Aussi bien dans les domaines purement informatiques, logiciels, que dans d'autres domaines. En 2001, l'UNESCO a réellement commencé à soutenir le mouvement du libre et le mouvement de l'open du code du source ouvert en reconnaissant leur contribution dans le développement des connaissances en matière informatique et en matière de savoir tout court. C'est dans ce sens que dès novembre 2001, l'UNESCO a développé et publié un portail sur le logiciel libre, portail qui a été même lancé par un éditorial de RMS, de Stallman en personne, qui a loué l'initiative. Et je crois que le lien est donné là. Il vaut mieux le découvrir. Ça vaut tous les commentaires. Également avec la fondation du logiciel libre, il a été convenu que l'UNESCO serve de site miroir pour présenter un site miroir pour le portail et le site même de la fondation du logiciel libre. Au niveau du développement, je crois, des ressources bibliothécaires, l'UNESCO a développé, en partenariat avec une université de Nouvelle-Zélande, un produit Greenstone que l'UNESCO a encouragé à faire passer, à faire migrer dans le domaine sous la licence GPL. Et depuis, l'UNESCO diffuse ce produit à travers les au niveau des utilisateurs des pays en développement. Le CD-ROM, dont quelques copies se trouvent sur la table, il est livré dans ses versions Windows, dans ses versions GNU Linux, et permet aux bibliothécaires de travailler librement, de développer, pas les bibliothécaires seulement, mais tous ceux qui sont des producteurs de contenu. Ils peuvent utiliser cela comme un modèle de développement et de diffusion de savoir, de diffusion de contenu sous une licence GPL. Un autre avantage, c'est que Grinson est développé en Unicode, ce qui facilite le portage sous différentes langues, ce qui est également un aspect important dans le travail de l'UNESCO. Ne pas se cantonner au langage dominant, mais essayer de permettre à toutes les parties du monde d'accéder au savoir, ce qui est dans la logique, bien entendu, de la réduction de l'extrême pauvreté via les technologies de l'information et de la communication. Bon, bien entendu, le produit Grimstone, il vaut ce qu'il vaut, et chaque fois que l'UNESCO essaye de soutenir ce produit, c'est pour un partage plus large. Ceux qui n'étaient pas là au départ sont invités à s'associer à l'initiative pour pouvoir obtenir des produits beaucoup plus significatifs. En décembre 2002, l'UNESCO a développé une autre initiative de bibliothèque et de laboratoire virtuel. Alors, et là aussi, ce produit a été élaboré sous forme, en tout cas sous forme de CD libre accès, accès ouvert. Et le produit, vous pouvez également le découvrir. J'ai laissé quelques exemples. Qu'est-ce qu'il permet? Bien entendu, il permet la communication, hein, personne à personne, audio, vidéo, transfert de, disons, conversation scientifique, tableau blanc, tableau électronique, je veux dire, le développement collaboratif de documents. Bien entendu, il y a une mailing list là-dessus. Alors, l'équipe qui a développé, basée à l'Université du Nigeria, à Ifé, dans une des universités du Nigeria, à Ilé-Ifé, il y a également une université de Chine et il y a bien entendu le Centre international de physique théorique de Thiès, qui joue un rôle, ainsi que cette université qui est là, l'Université technique de Freiberg. Bon, le lien pour cette université virtuelle est donné également en bas. Bon, ce projet est également un projet transversal qui a été utilisé pour étudier, par exemple, les problèmes de désertification autour du lac Tchad, de la mer Morte et de la mer d'Aral, ainsi de suite. Alors, à partir des éléments recueillis, une deuxième version est en cours d'élaboration depuis 2003. Il est bon de signaler aussi qu'au niveau de l'action de coordination, d'impulsion et au niveau international, l'UNESCO travaille avec un consortium des pays latino-américains qui vraiment ont une vision claire et forte de l'introduction des logiciels libres. Et en 2001, bien entendu, il y a eu une rencontre un atelier sur les logiciels libres à Cuba, du 25 au 27 juin, que l'UNESCO a soutenu. Il y a eu une autre rencontre, un forum, bien entendu, à l'occasion des rencontres de Porto Alegre. Il y a eu une manifestation, un forum sur le logiciel libre. Mon vidéo également, l'UNESCO a organisé, soutenu les manifestations. Et bientôt, au mois d'août, du 11 au 13 août, à Cusco, au Pérou, l'UNESCO va soutenir ce consortium à tenir une manifestation sous le nom de Lac Free. Alors, qui est une conférence du logiciel libre pour les pays de l'Amérique latine. Bon, les objectifs de cette conférence sont rapidement listés là. Quoi, ce sont des objectifs de promotion, de développement et de soutien à l'initiative du logiciel libre. On n'a pas beaucoup de temps, mais déjà, parmi les intervenants, il y a Bruce Perens qui va ouvrir, qui va avoir une conférence invitée. Il y a le sénateur de la Neuve, je crois, hein? Villeneuve du Pérou. Il y a RMS qui intervient et il y a bien d'autres noms du logiciel libre dans le monde comme en Amérique latine qui se configure parmi le programme qui figure au programme des intervenants. En 2004-2005, l'UNESCO, dans son programme biennal dans le cadre de la stratégie globale qui a été fixée pour le quinquennat 2002-2005, va développer un programme transversal, en tout cas un thème transversal plutôt, pour contribuer vraiment à la structuration de la société de l'information du point de vue au niveau du domaine des compétences de l'UNESCO, c'est-à-dire l'éducation, la science et la culture. Alors, il y a une initiative qui va certainement se tenir vers le mois de novembre pour essayer de voir qu'est-ce que le logiciel libre, le logiciel ouvert peut faire pour aider l'éducation dans les pays en développement. Bon, je crois que on va abréger la présentation. Alors, j'avais annoncé au début que le modèle de développement inspiré du modèle du libre va être encouragé au niveau de la coopération internationale, au niveau en tout cas du système de l'UNESCO, pour essayer de construire, de diffuser, de partager mieux le savoir dans tous les domaines de compétences, mais précisément au niveau des développements logiciels, au niveau de l'utilisation des outils informatiques et de manière générale des technologies de l'information et de la communication. Alors, bien entendu, c'est intéressant de demander une coopération au niveau mondial, mais il faudrait qu'au sein de l'entité de l'UNESCO elle-même, qui est une coopération interdivision, interdépartement, au sein de l'UNESCO pour pouvoir apporter une valeur ajoutée au niveau de toutes les activités que ces différentes divisions mènent. Parce que, selon l'UNESCO, ce modèle du travail collaboratif est une idée vraiment géniale qu'il faudrait multiplier pour permettre de résoudre rapidement et avantageusement les problèmes de déficit de savoir, d'ignorance, d'extrême pauvreté que l'on constate au niveau des différentes parties de l'humanité, malgré près de plus de 50 années de travail. Bon, je crois que il y a l'idée, bien entendu, aussi, dans le cadre de la diffusion, le portail va être porté. Il va être traduit dans d'autres domaines, dans d'autres langues, d'autres grandes langues du monde. notamment le français, puisque pour le moment il est en anglais, l'espagnol, des langues aussi importantes. Il est également une grosse activité au niveau de l'UNESCO pour faire passer les logiciels, certains outils, certains logiciels que l'UNESCO a développés pour les faire passer dans le domaine du libre ou en tout cas sous licence GPL. C'est le cas du projet du logiciel CDS ISIS et du logiciel IDAMS, un logiciel de documentation, de documentique, et un logiciel de statistique et de traitement de données. Alors, le CDS ISIS, lui, il a été développé depuis 20 ans. Il y a près de 20 000 copies qui ont été distribuées à travers le monde. Et il utilise le modèle, en tout cas, en essayant de le porter sous le code ouvert, le logiciel code ouvert. On pense que il va respecter d'abord le modèle Marc 21. Je crois qu'il y a la langue, le protocole de communication entre les bibliothèques et centres de documentation. Quant à IDAMS, c'est un logiciel qui travaille également dans le domaine du traitement de données, des jugements de données et de l'information numérique, statistique de manière globale. Lui aussi, il a été distribué à près de 5 000 utilisateurs individuels et institutionnels. Une autre étude que l'UNESCO veut entreprendre cette année, avec l'aide d'une fondation, Infondo, c'est d'essayer d'évaluer l'impact du logiciel libre, en tout cas sur l'éducation dans les pays africains. Parce que la question qui se pose, beaucoup de décideurs, beaucoup de preneurs de décisions hésitent, entretenir un certain doute sur les réponses, la fiabilité et les réponses que le logiciel libre pourrait apporter à l'éducation. Alors, tant que l'on reste dans le domaine des professions de foi, des déclarations d'intention, ça va être difficile, mais si l'on donne des études, on présente des études, notamment qui montrent au-delà de l'aspect libertaire, l'aspect libération, l'aspect formant, présenter également les considérations économiques auxquelles sont sensibles souvent les preneurs de décision, qui ne comprennent pas toujours grand-chose à d'autres aspects, on pense que ça pourra taire, réduire la critique et encourager au moins le gel du logiciel propriétaire, l'acquisition de logiciels libres chaque fois que ça présente des solutions intéressantes, concurrentes et alternatives par rapport à des logiciels qu'on a trop vus. Alors ça va être mené, je crois, avec cette fondation, cette ONG, Infondo, qui travaille avec le département, en tout cas l'organisme d'aide de la Grande-Bretagne, plutôt, oui, du Royaume-Uni plutôt, dans le domaine et pour le développement pour l'amélioration de l'équité et de la formation primaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Le lien également est là. Voilà, merci de votre attention. J'aurais pu vous présenter d'autres éléments, certains éléments, notamment l'appel à collaboration pour l'IDAMS, puisque ça s'est lancé vraiment. Je crois que la tribune est bien pour annoncer, pour vous inviter, pour inviter le mouvement. Les développeurs que vous êtes, les associations que vous représentez, les universitaires et les développeurs, les équipes que vous représentez, pour s'impliquer dans ce projet. C'est un logiciel qui a tourné depuis 20 ans, qui a fait ce qu'il fallait faire, qu'on veut ouvrir au libre. Il faut absolument que les meilleures compétences soient impliquées pour en faire un produit qui montre pour vous-même la vitalité de ce que vous faites, de ce que le mouvement du libre fait, mais également utilisera la tribune de l'UNESCO pour atteindre davantage d'utilisateurs, puisque si au bout de 20 ans on n'a pu atteindre que 20 000, c'est très peu par rapport à la communauté ciblée. On est convaincu que lorsque il revêtira le sceau du libre, de communauté puissante de développement, on aura un produit tout à fait d'une autre facture qui pourra également montrer que l'UNESCO a bien fait de développer ce logiciel en ce moment et bien fait également de s'ouvrir à vous, de s'adresser à vous, tout en appuyant toutes les initiatives que vous prenez pour que le logiciel devienne de plus en plus libre et fort pour le bien de tous. Merci. Tout à fait. La requête, puisqu'il y a une requête officielle l'April qui avait été adressée à l'UNESCO, l'UNESCO avait répondu et moi, on m'avait demandé de les représenter à la cérémonie de clôture. Je crois que ça a été fait. J'ai présenté une conclusion, les logiciels qui ont été remis, ainsi que la demande. Tout l'écho que j'ai retiré de la réunion, ça a été restitué au niveau qu'il faut à l'UNESCO. Alors, la question a été soumise, je crois, au sous-comité d'inscription au patrimoine de l'humanité, bon, qui a travaillé là-dessus et qui a fait une recommandation. Je crois que la lettre réponse ne vous est pas parvenue encore, peut-être officiellement. Mais cette recommandation n'était pas positive pour l'inscription au registre de l'humanité, pour deux raisons qui semblent techniques, savoir le logiciel réclamé ou en question était fragmenté, ne présentait pas un tout unitaire, ce qui est une des exigences pour être inscrit au patrimoine unitaire. De l'humanité. Deux, les membres, ils n'étaient pas sûrs qu'ils cèdent tous leurs droits. Alors, donc, je crois que ce sont les questions, les réserves techniques que la Commission a soulevées et pour lesquelles la sous-commission, elle n'a pas jugé prudente et elle a recommandé de ne pas inscrire. Ceci dit, la recommandation doit être répondue, mérite d'être répondue. Ce qui vous appartient, je crois, de le faire pour que il y ait une bonne vision des choses, que les clarifications soient faites. Parce que c'est difficile de croire que le logiciel libre, que le concept lui-même est fragmenté. Mais je crois que vous êtes les mieux placés pour montrer que, en tout cas, qu'il y a une réponse à cette recommandation afin de relancer, parce que c'est des grosses maisons, c'est très difficile de faire bouger. Alors, les membres viennent de différentes parties. Il y en a qui entendent la question pour la première fois ou qui essayent de donner des solutions qui ne sont pas forcément dans l'esprit de l'évolution. Je crois que vous le sentez bien au niveau de l'Europe même, qui est presque, puisqu'il y a une fondation qui est au centre même de l'Europe, qui fait ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas facile de faire passer le message. Et quand vous avez des membres de sous-commissions qui viennent de différentes parties, dont des parties pour lesquelles le logiciel libre n'est même pas d'actualité, alors ce n'est pas évident d'arracher des décisions. Voilà donc la réponse que je peux vous donner, mi-figue, mi-raisin, mais pour le moment, je crois que c'est une bataille, c'est itératif. Alors. Oui. Tout à Oui. Tout à
Peut
fait.
être considéré comme un ensemble d'œuvres disparates, etc. Sans parler du fait qu'ici, il est question d'œuvres immatérielles et que la question de la localisation géographique ou autre est un peu plus difficile et litigieuse. L'autre point, c'est sur la question de. Le deuxième point concernait la question de. Est-ce que les
Les
auteurs.
auteurs. GPL.
D'accorder les quatre libertés, ça couvre tous les usages,
Tout à
en
fait.
particulier le fait que leurs œuvres soient déposées dans un tel registre. La réponse officielle n'est pas encore parvenue.
Ouais.
Je ne peux pas en dire plus par rapport aux arguments qui ont été soulevés, mais ça veut dire que les réponses qu'on a fournies n'ont pas été a priori ou entendues ou suffisantes ou suffisamment claires. Il va de soi qu'il y a on fera un nouveau dépôt.
Tout à fait. Soyez rassurés en tous les cas que Jean-Claude Defin, qui est quand même la personne ressource au niveau technique, qui essaye de faire comprendre les choses de la bonne manière à la hiérarchie, lui, il est entièrement, vous devez le savoir par son engagement, par tout ce qu'il fait, il est entièrement acquis. Mais, vous savez, plus on monte en hiérarchie, plus on est sensible aux pressions du comeback de certains membres qui avaient quitté. Alors, et qui, de toutes les manières, quand ils viennent, il est très difficile de les accueillir par des choses qui ont provoqué leur départ quelques années. Tous ceux qui étaient là, peut-être il y a beaucoup qui savaient, qui ont suivi ce qui est toute la bataille du nouvel ordre. De l'information, du nouvel ordre de la communication. Et alors, malheureusement, au moment où le document rentrait, ça coïncidait, je crois. Alors, au moment où également l'Europe était en train très critique à l'égard de la question. Et si les membres qui sont dans la sous-commission, ils ont des capteurs un peu multidirectionnels, ils essayent de tenir compte de ce qui se passe. Dans le monde réel, même si vraiment ils sont d'accord avec l'argumentaire, avec les tenants et aboutissants, mais il faut tenir compte que c'est quand même une organisation qui regroupe des États. Ce qui fait qu'il y a une toute petite nuance. Il faudrait peut-être travailler, repréciser, recadrer et puis relancer la requête, je crois. Oui. Bon, l'UNESCO, en tout cas les personnes que j'ai rencontrées sont sensibles, savent bien la question que vous évoquez, même si moi je n'ai pas le droit de nommer quelqu'un, mais en réalité, non seulement lui, mais il y a une nouvelle personne qui va être nommée à sa place, une cheville ouvrière de cette division qui part aussi en retraite. Bon. À la retraite, je veux dire, mais je crois que il ne faut pas désespérer.
Merci de la réponse.
Non. Maintenant, ce n'est pas une réponse sibyllienne. Hein. C'est essayer de vous dire qu'on le veut ou pas, sous les coups de boutoir du mouvement du libre, de ce qui se passe, la donne change. Et une organisation comme l'UNESCO ne peut pas ne pas être sensible à cela. Je n'ai pas dit grand chose au niveau associatif, mais au niveau africain, puisqu'on est très nombreux, mais très mal lotis également à ce niveau, on n'a pas la même, il n'y a pas une vision aussi forte que l'Amérique du Sud en matière de logiciel libre. Mais le jour où cette connexion va être faite, cette connexion bienfaisante va être faite, où les 50 et quelques membres africains vont se mobiliser quand même pour le... Je ne dis pas que ça va apporter de la qualité, mais ça va apporter de la quantité au combat. Et là, c'est important. Et cette, vous aurez l'occasion de rencontrer différents membres. Il y a une association africaine d'utilisateurs du logiciel libre. C'est vrai, on aurait pu élargir, mais qui est créée, qui est en train de faire, qui a décidé à la dernière fois à Addis Abeba de consacrer une journée africaine du logiciel libre, de proposer des rencontres africaines du logiciel libre à l'image un peu des rencontres mondiales, ce qui montre qu'il y a quand même un effet en tout cas incubateur des rencontres mondiales qui se fait et qui peut permettre d'avancer et de mener, de renforcer une certaine pression, indépendamment des départs des personnes, des individus et des nouveaux membres qui viennent, pour que les anciens membres sachent que, eux, il y va de leurs intérêts vitaux, la réduction de l'extrême pauvreté, l'accroissement de la liberté d'usage ne peuvent pas être compatibles avec l'augmentation de la facture numérique. Or, qu'on le veuille ou pas, le logiciel propriétaire, même si on vous le donne gratuitement, il sera cher. Et nous, les pays africains, on n'a pas les moyens de nous les offrir. Ce qui fait que je crois que ça va changer. Il faut espérer. S'il n'y a pas d'autres questions? Ben, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous visiter la table où il y a quelques CD. Et il n'y en a pas suffisamment, mais les liens vous sont donnés. Ça vous permettra de voir ce qui se fait tout petitement, mais qui est une montagne pour les destinataires en Afrique, en Asie et dans les pays en développement. Merci.